Bienvenue sur Provision de vie avec Fabien Végel.
Ce programme vous donne les clés pour votre épanouissement avec une approche originale fondée sur la Bible qui offre des principes intemporels et efficaces pour qui les applique.
D'autres ressources vous sont offertes sur le www.provisiondevie.com.
www.provisiondevie.com.
Provision de vie, nous investissons en vous.
Nous investissons en vous.
Qui fait la différence? C'est pas tellement d'où tu viens, ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, mais ce qui va faire la différence, c'est ta foi. Ce qui fait intervenir la puissance de Dieu, ce qui fait que les promesses de Dieu deviennent réelles pour toi, ce n'est pas que tu l'aies mérité ou que tu ne l'aies pas mérité. Ce qui fait la différence, c'est si tu crois ou si tu ne crois pas. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la Bible déclare que c'est par la foi seule que nous pouvons faire à Dieu. Et ce que Dieu recherche, c'est notre foi. Et si vous lisez très bien les évangiles, vous verrez régulièrement Jésus dire à ses malades, à ses gens qui étaient désespérés, qui étaient perdus, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, qu'il te soit fait selon ta foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi ici ce matin? Ok. Mais selon ta foi, ce matin, Dieu va répondre. Selon ta foi, ce matin, Dieu va te toucher. Selon ta foi, tu vas recevoir plus ou moins de ce qui est disponible. Laisse-moi te dire que Jésus a déjà tout accompli. Il a tout fait. Et la Bible déclare qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La Bible déclare qu'il a déjà remporté la victoire éternellement, que par un seul sacrifice, il nous a rendu juste acceptables devant le Père. La Bible déclare dans le livre aux Colossiens, notamment un passage que j'aime et que je déclare régulièrement pour moi-même, qu'il a dépouillé les autorités en les livrant publiquement en spectacle par l'œuvre de la croix. Donc Jésus a déjà vaincu, il a tout accompli, tout est possible, tout est disponible. Mais qu'est-ce qui va faire que ça devienne réel, chacun d'entre nous? C'est la foi, tout simplement. Tout simplement. Jésus dit que si tu avais la foi juste comme un grain de moutarde, tu ordonnerais les choses comme ça. Elle dit, si quelqu'un ordonne à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc ce matin, si tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Cette montagne de difficultés, cette montagne de problèmes, cette montagne peut-être de maladies, d'inconfort, de difficultés, ou quoi que ce soit, ce matin, tu peux dire à la montagne, toi tu dégages au nom de Jésus, et elle est obligée de partir si tu crois que ce que tu dis arrive. Dieu a créé l'univers, les cieux, la terre et tout ce que nous voyons pour nous, juste par sa parole. Dieu dit que la chose est vie. Dieu dit que la chose est vie. Et plus tard, Jésus va opérer de la même manière. Jésus n'a pas tellement fait des grandes démonstrations de je ne sais trop quoi. Et pour revenir un peu sur les miracles, Jésus n'a pas fait de très longues prières, de longues minutes, longues quarts d'heure, en faisant tous les efforts, en faisant tout ce qu'il savait faire. Jésus n'a pas essayé toutes les méthodes de guérison qui peuvent être juste uniquement jusqu'à ce que la personne soit guérie. Jésus opérait dans l'autorité. Jésus disait, sois guéri, ton mal. Jésus disait, démon, tu sors. Jésus disait, sois guéri, sois restauré. Et Jésus passait. Les choses arrivaient. Et plus tard, les apôtres ont fait la même chose, alors qu'un jour, Pierre, je crois, est qui vous a dit. Je ne sais plus qu'il était accompagné, en tout cas, Pierre, et il s'est présenté à la porte du temple, hein, et il y avait là un boiteux, un homme infirme depuis très longtemps, qui mendiait. C'était les gens, c'est pas sûr, merci. Et il va leur dire, regarde-moi. Et il le regarde droit dans les yeux, il dit, moi j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or. Et cet homme-là, il espérait pour rien d'autre de la vie que simplement recevoir un petit peu d'argent des autres pour pouvoir survivre. Et ce que Jésus te le donne, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et à l'instant même, il s'est levé, sauté partout, il louait Dieu, les gens étaient surpris, stupéfaits de ce qui vient de se passer. Pourquoi ils n'ont pas fait, ils n'ont pas réuni un groupe de personnes pour faire un grand programme de prière et d'intercession. Ils ont juste exercé leur autorité. Et je vous rappelle qu'on est dans une espèce de série d'enseignements, je pense, qui a commencé la semaine dernière, avec un message à Christ.3, chercher premièrement le royaume de Dieu. Et on va un petit peu continuer dans cette lancée ce matin, parce que j'ai vraiment à cœur que c'est bon qu'on revienne à ce message central de Christ. Je vous rappelle que Jésus n'a pas tellement enseigné sur 36 000 sujets, si je puis me permettre. Et loin d'avoir de découvrir tous les sujets de notre vie. Mais le sujet d'enseignement de Jésus, c'était le royaume de Dieu. Jésus circulait partout, il prêchait, il enseignait, il faisait du bien, il faisait des miracles, mais Jésus prêchait le royaume de Dieu. Et dans Matthieu 6, 33, il est écrit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Et je vous avais montré que plutôt que d'aller chercher une intervention de Dieu, une guérison, une délivrance, ou quoi que ce soit, cherchons le royaume de Dieu. Cherchons le cœur du Père. Cherchons la face de Dieu. Cherchons quel est vraiment ce message de Christ et dans quoi il veut nous introduire. Et voilà ce qu'on veut compte, qu'on aura tout ce dont on avait besoin et beaucoup plus encore. On a vu que Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse régner, dominer, être en autorité sur la terre. Et l'idée de Dieu, c'était que sur la terre, à travers l'homme, il puisse exercer son autorité. Il a fait la terre pour l'homme et l'homme devait, d'une certaine façon, gérer la terre. Et je vous ai montré que malheureusement, par le péché, par la désobéissance et la rébellion à Dieu, l'homme a transféré son autorité, il a cédé son autorité à quelqu'un d'autre, le diable, qui aujourd'hui s'appelle le prince de ce monde. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu sur la terre pour pouvoir nous réintroduire dans son royaume de lumière, son royaume de gloire. Et par l'œuvre de Christ, aujourd'hui, nous pouvons être restaurés dans la position d'autorité que Dieu voulait pour chacun. Est-ce que Dieu veut, c'est que nous soyons en autorité dans notre vie. Et en tant qu'Église universelle, hein, c'est pas juste nous ici, en tant qu'Assemblée, nous sommes juste une goutte d'eau dans l'océan. Mais l'Église de Jésus-Christ est supposée exercer l'autorité, est supposée représenter l'autorité de Dieu sur cette terre, est supposée manifester les œuvres de Dieu et manifester le royaume de Dieu sur la terre. Et là où le royaume de Dieu est annoncé, là où le royaume de Dieu est établi, là il y a des miracles, des signes, des prodiges, des manifestations de puissance. C'est comme il est écrit quelque part dans les Épîtres, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. Et Pierre disait, notre prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Vous voulez voir la puissance de Dieu? Vous voulez voir des miracles, vous voulez voir le problème de Dieu s'accomplir, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et quand vous êtes dans la dynamique et dans une progression où vous êtes conscient que vous êtes pas juste dans un petit système religieux, mais que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand, qui s'appelle le royaume de Dieu, vous allez commencer à voir l'autorité de Dieu se manifester dans votre vie, vous allez commencer à voir la puissance de Dieu prendre place dans votre vie, parce que là où son règne est établi, là sa gloire vient. Parce que Dieu siège en gloire sur son trône. Nous avons vu que nous devions remettre en place des priorités et remettre la première place. Et permettre à Dieu d'être à la première position dans notre vie, position d'autorité absolue. Nous avons vu que nous ne sommes pas non plus en quête hein, ou en mal d'autorité, en mal de puissance et de domination, mais qu'en réalité, la clé, c'est de nous soumettre à Dieu et de nous abandonner à lui. Et si nous nous soumettons à Dieu, il va nous mettre dans cette position d'autorité. Nous n'allons pas chercher nos propres intérêts, nos propres petits plaisirs, mais en fait, nous allons simplement être un écho, un reflet de Dieu sur cette terre. Et à travers nos vies, Dieu voudrait pouvoir agir sur cette terre. À travers nos vies, Dieu voudrait pouvoir faire connaître à ce monde sa puissance, sa sagesse, la richesse infiniment variée de sa connaissance. C'est aussi pour ça que nous réalisions et que nous épousions réellement son plan. Et comme je le disais aussi, Jésus n'a enseigné qu'une fois dans le monde. Une seule fois, dans son ministère. Il a fait parler à des personnes. Mais dans les évangiles, on a juste un enseignement sur la nouvelle naissance. Notamment Jean 3, chapitre 3, il explique à Nicodème ce que c'est. Et évidemment, la nouvelle naissance est absolument indispensable et primordiale. La nouvelle naissance, ça reste le message. Mais je vous rappelle que la nouvelle naissance, c'est juste la porte d'entrée, c'est juste la clé d'accès. Mais Jésus disait, si quelqu'un naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et autrement dit, celui qui naît de nouveau peut voir le royaume de Dieu. Et souvent, dans nos habitudes protestantes, ou évangéliques, ou même pentecôtistes, ou ou tout ce que vous voulez. Hein. Mmh. Chacun n'a pas le droit d'avoir sa petite étiquette, moi j'en ai pas, comme ça, ça va venir tout le monde. Mais dans nos habitudes, on prêche et on enseigne la nouvelle naissance. On dit, il faut que tu naisses de nouveau, il faut que tu te convertisses, il faut que tu donnes ta vie à Jésus, éventuellement, il faut que tu sois baptisé, et éventuellement, on va jusqu'au baptême dans le Saint-Esprit. Et puis on s'assied et on attend que Jésus vienne nous chercher. Mais la nouvelle naissance, c'est juste le début. C'est juste la porte d'entrée. On a besoin de réaliser et de sortir de là où on est enfermé, où on est juste resté sur le premier point. On est de nouveau et puis on attend que ça se passe. Donc nous sommes nés de nouveau pour pouvoir vivre, entrer, expérimenter le royaume de Dieu. Et plus on va avancer, plus ça va être concret, vous n'inquiétez pas. Mais je veux bien prendre le temps de poser ce fondement. Je ne suis pas en train de faire un espèce d'enseignement bizarre. Je ne suis pas en train d'essayer de. Des fois, les gens se disent, mais où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il veut nous raconter? Moi, je n'ai rien à vous raconter. Ensemble, on est là pour écouter le maître. Vous ne faites pas. Et le maître est venu nous rappeler son message, le royaume de Dieu. Matthieu 24 est écrit dans cet évangile, faisant référence à l'évangile du royaume de Dieu, sera prêché partout, alors viendra la fin. On a à peu près prêché la nouvelle naissance partout, mais si on a prêché et enseigné le royaume de Dieu partout, je laisse la question ouverte. Nous avons besoin d'aller beaucoup plus loin, d'aller beaucoup plus dans les profondeurs de l'enseignement de Christ et de voir ce qu'il veut réellement nous dire. Parce que oui, le message de Christ, oui, la nouvelle naissance, et oui, l'Église elle-même, c'est un appel de Dieu à sortir du monde. Mais alors qu'il nous a sortis du monde, c'est pas juste pour nous mettre quelque part dans une bulle et attendre que ça se passe, mais il nous sort, il nous arrache au monde, il nous change de nature, il nous donne sa nature divine, il nous remet du Saint-Esprit, et ensuite il nous renvoie au milieu de ce monde pour manifester sa puissance, pour manifester son autorité, et pour amener d'autres personnes à venir aussi dans son royaume. Je suis pas en train de prêcher un espèce de royaume de Dieu sur la terre, le royaume de Dieu n'est pas ce monde. Et le royaume de Dieu, c'est une réalité beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste, beaucoup plus profonde. Et lorsque Christ est venu nous sauver, il nous a arraché la vie des câbles au royaume des ténèbres pour nous amener dans le royaume de la lumière. Et ensuite, il nous envoie, comme ses témoins, comme ses ambassadeurs. Jean chapitre 20, il est écrit que comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et ce matin, je voudrais attirer un petit peu votre attention sur juste quelques réalités simples hein, de la parole de Dieu, mais aussi de notre rôle en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, mais de nouveau, et en tant qu'Église de Jésus. Vous savez que l'Église, le mot Église, hein, ça vient du terme ecclésia. Vous connaissez ça peut-être? Et ecclésia, ça veut dire littéralement être appelé hors de l'Église. En fait, c'est une assemblée, on pourrait dire, de personnes qui ont été appelées hors de quelque chose. Donc, Jésus nous a appelés hors de ce monde, hors des ténèbres, hors de l'autorité de Satan, et il nous a assemblés pour être sous son autorité, pour être dans la lumière, pour être dans sa gloire. Mais Ecclésia, à l'époque, c'était quelque chose qui était évident pour tout le monde. Aujourd'hui, quand on dit Église, on va voir tout de suite des trucs religieux. Même quand on dit qu'on n'est pas des religieux, on ne ressent pas beaucoup religieux. Mais quand on vous dit qu'on voit un truc, un système, une institution, en réalité, ce mot ecclésia, il leur était familier parce qu'à l'époque, une ecclésia, c'était une assemblée de personnes ou un groupe de personnes dans une cité ou dans un espace donné qui se réunissaient pour statuer sur les questions de la vie sociale ou sur les questions de ce qui se passait autour d'eux. Aujourd'hui, on pourrait quasiment comparer ça avec un gouvernement. Et il m'arrive de dire, et j'en suis convaincu, que l'Église de Jésus-Christ, c'est pas juste, et ça n'est même pas du tout une institution religieuse, mais l'Église de Jésus-Christ, c'est le gouvernement de Dieu sur la terre. Et ça n'est pas juste là pour faire des trucs, prier, pour parler un petit peu de la Bible, et pour se faire du bien entre nous, en espérant d'un jour partir au ciel, vous savez, partie du jeu, d'accord? Mais pendant que nous sommes là sur la terre, Christ nous a laissé pour que nous puissions représenter son royaume, sa puissance, son autorité, sa capacité sur la terre. En fait, l'Église, nous sommes le gouvernement de Dieu sur la terre. C'est-à-dire que c'est à travers nous que Dieu veut pouvoir étendre son influence et son autorité dans ce monde. C'est à travers vous et moi que Dieu voudrait pouvoir atteindre encore d'autres personnes dans ce monde et les amener à sa connaissance. Matthieu, chapitre 16, vous pouvez regarder avec moi. Matthieu 16, on a ce fameux passage où Jésus va pour la première fois faire mention de l'Église. Pour nous, c'est évident, si on revient un petit peu en arrière, eux ne savaient pas du tout ce que c'était l'Église de Jésus-Christ, ça n'existait pas. Il y avait le peuple juif, et puis il y avait par la suite, on n'y était pas encore, d'autres païens, d'autres personnes qui allaient venir à Jésus, qui allaient croire à l'Évangile, mais l'Église, ça n'existait pas encore. C'est un mystère caché que Dieu va révéler progressivement. Et là, Jésus va faire une première mention à l'Église, et plus tard, c'est surtout à travers l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament qu'on va avoir une révélation et une compréhension. Une compréhension de ce qui est supposé être l'Église, et de comment ça doit fonctionner, et de ce que Dieu voulait. Et ici, dans Matthieu 16, 18, donc Jésus s'entretient avec Pierre, et Jésus venait poser sa question aux disciples. Et qui dites-vous que je suis? Et Pierre va lui répondre. Verset 16, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, que sur cette pierre, selon les versions, je bâtirai mon Église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu déliras sur la terre sera lié dans les cieux. Puis il recommanda aux disciples de ne dire à personne ce que vous voulez. Donc, Pierre ici va avoir une révélation. Dieu le Père va lui communiquer une connaissance surnaturelle qui n'était pas encore connue. Et il va répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus peut lui répondre, tu es Pierre, et sur ce roc, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il a l'impression de préciser ici que Dieu ou Jésus ne dit pas qu'il bâtirait l'Église sur la personne de Pierre. Pierre, non, et sur cette pierre, sur ce roc, c'est-à-dire sur la base de cette révélation que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est là-dessus que je bâtirai mon Église. C'est-à-dire que le fondement même de l'Église, eh bien, c'est de croire que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. La Bible déclare aussi qu'il est la tête de l'Église. Hein, donc Jésus est le point central, on pourrait dire, la raison d'être, le fondement, mais aussi la destination à raison d'être de l'Église. Et il nous dit ici, tu es Pierre et sur ce roc, je bâtirai le nom de l'Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Donc Jésus dit qu'il bâtirait son Église et que son Église serait dans une position de puissance, d'autorité, de prépondérance. Il dit que même les portes du séjour des morts ne prévaudraient pas contre l'Église. Devrions réaliser que l'Église est supposée être la plus haute autorité. Il n'y a pas sur terre de plus haute autorité que l'Église. Certes, il y a des autorités dans chaque pays, dans chaque nation, dans les régions, nous devons les respecter, les honorer, prier pour eux, etc. Mais l'autorité par excellence, c'est Dieu lui-même, évidemment, et sur la terre, Dieu a établi son Église comme la représentation de son autorité. Et quand Jésus dit que son royaume s'est approché de nous, bien que le temps est venu pour l'établissement du royaume de Dieu, il ne parlait évidemment pas de mettre des gens à part et d'essayer de monter une nation ou bien un empire, comme on a pu en voir. Et si vous regardez à travers les époques, il y a eu des empires, il y a eu des royaumes, il y a eu des puissances qui ont existé, qui ont fonctionné, mais qui ont aussi disparu de la même façon qu'elles étaient apparues. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, il est écrit que son règne n'aura pas de fin. Donc Jésus est venu établir, j'allais dire même rétablir, le règne de Dieu sur la terre à travers son Église. Jésus est venu nous restaurer dans cette position-là, et c'est un règne qui n'aura pas de fin. Donc, nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus significatif que juste une réunion et une personne qui croit en Jésus, qui lit un peu la Bible, qui prie de temps en temps, et qui essaye de se sentir mieux. Nous faisons partie d'un programme beaucoup plus large de Dieu. Il veut à travers nous faire connaître à ce monde qui il est et sa puissance. Et il nous a donné l'autorité des portes du séjour des morts ne prévaudront pas les autorités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mort et tout ce qui en vient aussi ne doit pas prévaloir contre les vies. Mort, la destruction, même la maladie qui au final va nous conduire vers la mort. Donc plus largement encore beaucoup plus, le stress, l'anxiété, la peur, toutes ces choses-là qui d'une manière ou d'une autre vous conduisent et vous amènent à la mort. Jésus dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église. Maintenant l'Église c'est quoi? C'est bien beau pour l'histoire, mais l'Église elle est composée de quoi? De pierres vivantes. Et ces pierres vivantes c'est qui et c'est quoi? C'est vous et c'est moi. Donc, Jésus déclare que les portes du séjour des morts ne prévaudraient pas contre moi. Et je déclare au nom de Jésus que les portes du séjour des morts ne prévaudraient pas contre moi, parce que je suis sous l'autorité et la puissance du Dieu de la vie, du Dieu de la bonne santé, du Dieu de la prospérité, du Dieu de l'excellence, du Dieu de la réussite et du succès. Et à qui seul revient toute la gloire. Mais si je prospère, si je réussis, c'est pas juste pour dire que je suis bien ou mieux que les autres, je prospère, je réussis, je me développe, je m'épanouis, parce que c'est un signe du règne de Christ, c'est un signe de la puissance de Dieu, c'est un signe que même dans un monde en crise, en difficulté, où tout le monde ne sait pas comment faire, et bien quelqu'un peut réussir, mais quelqu'un peut réussir non pas seulement parce qu'il est mieux que les autres, mais parce qu'il a celui qui est plus grand que les autres, il a la puissance qui est au-dessus de toute autre puissance, et ça s'appelle Jésus-Christ. Peut me permettre de secouer un petit peu la poussière. Secouer votre poussière religieuse. Secouer votre poussière évangélique, pardon. Commencez par vous parler de la foi et de l'autorité avec nos parents, je ne sais pas pourquoi, mais nous opérons trop peu dans l'autorité de Jésus. Là, il y a deux raisons principales. La première, c'est l'ignorance. Il y a un antidote facile, c'est de chercher la parole et de demander au Saint-Esprit de nous éclairer. Et je crois qu'il va le faire encore beaucoup plus à travers ces enseignements que nous sommes en train de partager. Et l'autre raison, là, c'est la religion. Là, c'est un autre problème. Il vaut mieux se soumettre à Dieu que d'être rebelle. Vous savez, des fois, les gens vous voient des fois des prétentieux, vous êtes des orgueilleux à croire que vous êtes en autorité, à croire que les choses doivent fonctionner pour vous. L'orgueil, c'est de rester quoi, ce que je dis. Et quand vous vous entêtez à rester médiocre, à rester dans l'échec, à rester malade dans la défaite, vous résistez à Dieu, vous êtes orgueilleux. Parce que si vous lisez très bien la parole de Dieu, Christ ne vient pas chercher l'église faible, dans la détresse, insignifiante. Dieu vient chercher une église glorieuse, sans tache, numérique. Et moi je veux faire partie de l'église glorieuse. Et l'église glorieuse c'est quoi? C'est une église qui a compris qui elle est, c'est une église qui s'est laissée conduire par le maître dans sa destinée, c'est une église qui est en autorité, qui est influente, et dans laquelle la gloire de Dieu est manifeste, évidente, sensible. Vous pouvez pas rentrer peut-être en présence d'un enfant de Dieu authentique, ou peut-être dans une réunion des croyants sans que la gloire de Dieu ne soit là, ne vous touche. C'est ça qui est glorieux.
C'est ce que je cherche.
Cherchez premièrement le royaume. Pourquoi il dit chercher? Parce que ça vous tombe là-dessus. Cherchez-le. Désirez-le. Aspirez après le royaume de Dieu. Si vous regardez très bien la vie spirituelle, l'accomplissement du plan de Dieu dans notre vie, la manifestation de sa gloire et toutes ces choses-là ne dépendent pas de Dieu seul, Et si ça ne dépend pas de lui, si tu fais déjà tout le matin. Et régulièrement dans sa parole, il dit chercher le bonheur. Vous nous dira aspirer le bonheur de l'univers. Plus tard, il dira exercez-vous à la piété. Et tant d'autres choses où il nous engage à désirer, à rechercher, à nous investir dans ce plan de Dieu, à croire qu'il y a beaucoup plus à vivre que ce que nous avons connu jusqu'à maintenant. Là, je remercie Seigneur parce que plus ces années passent, et moi je suis satisfait, mais ce n'est pas que je sois insatisfait ou triste ou en souffrance, mais je crois qu'à certains moments, l'Esprit de Dieu met dans vos cœurs, met dans nos cœurs, une espèce d'insatisfaction en disant « Mais c'est pas ça, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ?» Et il y a quelques années, j'étais insatisfait d'être dans un endroit où on parlait de la vie, tout ça, mais où il ne se passait jamais rien, où on parlait jamais du Saint-Esprit, c'était sec, on s'ennuyait. Et quelques temps plus tard, en cherchant la salle de Dieu, l'Esprit de Dieu m'a conduit dans d'autres compréhensions et aussi au contact d'autres personnes. Nous, maintenant, il se passait des choses. On prêchait, on enseignait sur le Saint-Esprit. J'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, c'était très bien. Dès quelques années plus tard, je me suis de nouveau pas satisfait. Pourquoi? Parce que c'était le moment d'aller plus loin, de passer un autre palier. Et je crois et je ressens dans mon esprit que c'est le temps pour l'Église de Jésus-Christ, mais de façon beaucoup plus globale que ce que nous pensons, de passer à un autre palier. Et je suis profondément insatisfait. En même temps, je suis reconnaissant à Dieu, je le bénis, je suis plein de joie aussi, et je suis humble devant lui quand je vois tout ce qu'il a fait dans ma vie, et tout ce qu'il fait, c'est formidable, c'est merveilleux, on lui dit merci, on est dans la reconnaissance. Mais en même temps, je sens qu'il y a autre chose, c'est pas terminé, il y a beaucoup plus. Et Dieu est en train de nous attirer, d'attirer son Église, à dire, oh, réveillez-vous. Comment on est tous à dire, Seigneur, envoie un réveil. Mais commence par changer ta mentalité, commence par changer de pensée, et commence par faire quelque chose de ce que je t'ai déjà dit pendant toutes ces années. Avec toutes les paroles que Dieu a déjà données à son cœur, depuis des années, des décennies, et comme je disais dernièrement en enseignant à l'école biblique, ces dernières années, il y a eu quand même une accélération, notamment depuis le réveil entre guillemets du mouvement de Pentecôte en 1904, et puis après ça s'est enchaîné, le mouvement guérison, il y a eu le mouvement charismatique qui s'est répandu presque sur toute la terre, on a recommencé à jouer Dieu, à être ouvert à l'action du Saint-Esprit, et puis il y a eu beaucoup de manifestations qui se sont faites, on commence à parler de la gloire de Dieu, tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ce que Dieu nous a déjà dit, tout ce qu'il nous a donné? Et pourquoi mouvement après mouvement, il y a quelque chose qui a l'air d'éclore et tout d'un coup ça s'arrête quand ça a commencé? J'ai un moment quand même regarder les histoires, déjà l'histoire de l'Église en général, et puis les histoires des réveils, et je me dis pourquoi à chaque fois il se passe quelque chose, et puis ça va un petit peu, ça s'arrête, et c'est qu'à chaque fois ce que Dieu nous a donné, on le reprend et on fait un petit système avec. Et on dit, ça y est, c'est moi qui ai eu la dernière révélation. C'est bon, je connais. Et quand demain quelqu'un d'autre qui est touché par l'Esprit de Dieu, il y a peut-être une révélation différente, une nouvelle compréhension, on va les combattre en disant, non, c'est nous qui avons la dernière révélation. Vous avez compris, parce que Dieu est en mouvement, Dieu va amener son Église à avancer jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement à la stature de Christ, qui était bien 4, et jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement glorieuse. Donc ta révélation d'hier, elle était très bien pour hier, meilleure révélation d'aujourd'hui. Et en même temps, la révélation d'aujourd'hui ou de demain ne pourra pas se mettre en place si nous ne commençons pas par pratiquer ce que nous avons déjà reçu. Et par revenir à l'enseignement de Jésus, le royaume de Dieu. Prends le petit verre de votre formateur ou de votre ne m'inquiétez pas, c'est mon le plus important. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien, je pense que c'est un écho en toute humilité de ce que parfois Christ doit ressentir en disant « Vous attendez quoi? J'ai tout fait, je vous ai tout donné. Vous avez ma parole, vous avez le Saint-Esprit. » Et puis on est là à attendre que les choses se passent. Vous savez, le réveil que les gens espèrent tellement, il ne va pas comme ça sortir de n'importe où. Même si Dieu fait grâce et qu'il est bon un petit peu à un moment donné, envoyer un mouvement du Saint-Esprit, mais si on veut vraiment progresser et entrer dans toute la dimension que Dieu veut pour nous, comme je vous le dis, il y a beaucoup plus qu'un réveil, il y a ce qu'on appelle une réforme. c'est-à-dire un changement dans nos mentalités, un changement dans nos fonctionnements. Et ensuite, quand le mouvement de l'Esprit viendra, nous saurons comment suivre le mouvement du Saint-Esprit, parce qu'on ne va pas réagir charmément, on ne va pas réagir juste avec ce qu'on pense être juste ou pas, mais on aura laissé Dieu changer nos pensées, changer nos mentalités, et ce changement de mentalité passe par une redécouverte et par un retour à la conscience et à la mentalité du royaume de Dieu. Et il est temps qu'on sorte de la mentalité de la petite chapelle. Et ça, c'est très grave ici, c'est vrai dans beaucoup d'endroits, mais je prie et je crois Dieu et je prophétise au nom de Jésus que cette vieille mentalité pourrie de ma petite chapelle, de ma petite église, de ma petite dénomination est condamnée à oublier et à être dans les lieux d'arrivée au nom de Jésus. Et la vérité va être claire et le peuple de Dieu va chercher réellement la face de Dieu et on va commencer à réfléchir en termes de royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, certes, il y a plusieurs communautés, mais on se respecte, on se reconnaît les uns les autres, parce qu'on sait qu'on n'est pas tout seul, on participe à quelque chose de plus grand. Et si on regarde un petit peu, sans faire de comparaison, mais je pense pouvoir utiliser cette image que on peut imaginer que l'Église universelle, entre guillemets, comme on peut l'appeler, d'autres diraient la Sainte Église catholique, l'Église catholique, ça veut dire universelle. Maintenant, on a trouvé ça selon une religion, on dit c'est nous l'Église. Mais on ne fait pas mieux chez les pentecôtistes. Ou alors si c'est baptiste ou les évangéliques ou même ceux qui se disent de n'être rien du tout mais qui souvent sont aussi enfermés dans quelque chose, mais on passe l'église universelle, l'église de Jésus-Christ dont il est la tête. Et l'église fait partie du royaume de Dieu. Là où Christ veut équiper son peuple. Vous savez quoi, l'église en fait c'est un centre d'entraînement du royaume de Dieu. La Bible dit que plus tard, après que cette terre et ce ciel soient passés, eh bien Dieu fera de nouveaux cieux et de nouvelles terres, nous serons appelés à réunir, à être en autorité sur les villes, sur les... Je ne sais pas vraiment comment ce sera, mais la Bible raconte des choses qui me paraissent très intéressantes pour la suite. Mais l'Église, donc dans son ensemble, fait partie du royaume de Dieu. Et maintenant, il y a différentes églises, différentes assemblées, qui chacune pour leur part ont reçu, pour celles qui sont suscitées de Dieu, un mandat particulier, une onction particulière, une vision particulière, et qui ont leur caractère qui leur est propre, voire même leur style qui leur est propre, et c'est très bien comme ça. Et chacune de ces églises est une représentation de ce royaume plus large, plus global. Mais après, chaque chrétien est un représentant, un ambassadeur, c'est par la parole de Dieu, de ce royaume de Dieu. Et donc, quand ces ambassadeurs-là se rencontrent dans une église locale, dans une assemblée locale, et bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pouvoir s'édifier mutuellement, et ils vont pouvoir être enseignés, équipés, parce que la Bible déclare dans Éphésiens 4, comme toujours, que Dieu a donné à l'église des ministères, en tant que prophète, évangéliste, pasteur et docteur, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Et l'église elle-même, ou ce que nous avons appelé les ministères, ne sont pas une fin en soi. Et j'ai souvent tendance à dire que le plus important, c'est pas d'être là dans une salle fermée, climatisée, à prêcher à des personnes qui vous écoutent et qui sont d'accord avec vous parce que vous parlez de la parole de Dieu. Le ministère, la raison d'être de l'Église, le but de Jésus-Christ, ça c'est une partie parce qu'on va s'édifier, on va s'encourager, on va être enseigné, équipé, mais le plus important, et là où tout se joue, c'est quand on est là-bas dehors. Et quand on est à la maison, au travail, à l'école, dans nos entreprises, dans tout ce que nous faisons, des ambassadeurs de Christ, revêtus de son autorité, de sa puissance, c'est là que ça se joue. Et nous ne vivons pas juste pour venir nous réunir à l'église une ou deux, trois fois par semaine. Les réunions de l'église une ou deux, trois fois par semaine, ça devrait être la partie la plus facile, entre guillemets, la plus simple de notre vie chrétienne, de notre vie de disciple de Jésus. Parce que là, on est encouragé, on est dans un contexte favorable, et on se laisse former et transformer par Dieu, ou quand on en a besoin, on peut être aussi secouru avec la foi déterminée dans nos besoins. Et c'est tous les jours que Jésus nous attend, c'est tous les jours que Jésus regarde ce qui se passe, c'est tous les jours que Jésus voudrait pouvoir se faire voir à travers nous. Et l'une de mes prières les plus récurrentes et les plus sincères, c'est que de plus en plus, Jésus puisse paraître à travers moi. Et plus nous passons du temps dans la présence de Dieu, de Corinthiens 3, 18, voici ceux dont le visage découvert contemple la gloire de Dieu, transformé dans la même image par l'Esprit du Seigneur, plus nous passons du temps dans cette présence de Dieu devant notre maître, et que plus nous lui ressemblions, nous serions transformés, de telle sorte que finalement les gens que nous rencontrons, que nous croisons, les personnes en présence de qui nous sommes, eh bien puissent avoir littéralement l'impression d'être en présence de Jésus. Et quelquefois, chacun d'entre nous, quand vous rendez, nous sommes encouragés. Quand quelqu'un nous dit, mais je ne sais pas si mais c'est agréable d'être en votre présence. Alors, quelquefois, quelqu'un vous parle et puis, simplement en étant là, tout simplement, mais la vérité qui se communique, et bien, il est arrivé dans un endroit, dans un monde des folles, les gens sont un peu sous tension, tout ça, qui vous entraîne, tout d'un coup, il y a un calme qui se répand. C'est quoi ça? C'est l'influence pour aller mieux. C'est la présence de Jésus dans votre vie. Et nous sommes appelés à le vivre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Imaginez qu'il suffisait que Pierre fasse un seul, il y avait des malades, et les malades étaient guéris. Pourquoi? Parce que le rayonnement de la puissance et de la gloire de Dieu était tellement fort sur lui que les gens étaient guéris sans même qu'il les touche, sans même qu'il ne fasse rien. Pierre opérait dans sa position d'ambassadeur de Christ. Pierre était conscient, comme tous les premiers disciples et les premiers apôtres, l'enseignaient eux-mêmes qu'il faisait partie du royaume de Dieu. Il avait été investi d'une autorité de Dieu, qui certes ne lui appartenait pas, mais il laissait Dieu, par sa puissance, par le Saint-Esprit, passer à travers lui et faire du bien aux gens. Et c'est pour ça que nous sommes sur la terre. Sinon, lorsqu'on est de nouveau, Dieu pourrait nous prendre et nous refaire ses au paradis. C'est à Dieu. Pourquoi nous mettre sur la terre? Pas pour purger nos péchés par la souffrance, comme certains l'imaginent encore aujourd'hui. Il nous a laissé sur la terre parce qu'il dit maintenant tu es né de nouveau, que je t'ai donné ma nature et ma puissance, tu vas amener ma présence, tu vas amener ma gloire, tu vas amener mon règne à être évident pour les gens qui sont autour de toi. Nous avons besoin, là, je vais peut-être finir comme ça, de retrouver, de réadopter, je crois que la parole pourrait dire, mais une mentalité, une conscience du royaume. Au-delà de la question de vie chrétienne, juste la question de l'Église. Dieu, le but ultime de Dieu, c'est de rétablir son règne à travers le premier point. Dès que Dieu nous aime tellement et Dieu compte tous les hommes, il voulait que tout soit sauvé. Je vous rappelle que par l'erreur d'un homme, mais en fait, quand lui, il est plus, Adam et Ève, par leur désobéissance, cette autorité est donnée à quelqu'un d'autre, Satan. Et il y a un moyen pour que Satan soit confondu et qu'il perde le terrain et que l'Église de Jésus-Christ retrouve son autorité et reprenne sa position. Dieu ne peut pas reprendre à Satan son autorité. Parce que quand Dieu vous donne quelque chose, en fait, pour vous, si vous l'utilisez bien, tant mieux, si vous l'utilisez mal, tant pis, vous l'avez donné, il ne va pas revenir dessus. Donc l'homme a même utilisé son autorité, il l'avait dit à Satan. Et donc c'est l'homme aussi qui doit reprendre sa position de Dieu. Jésus ne peut pas dire à Satan, bon, là, tu les laisses tranquilles. Non, 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 j'ai le droit légal. Et effectivement, c'est un droit légal d'agir dans la vie des hommes qui lui ouvre l'accès à cause du péché. Et le moyen, c'est que nous-mêmes, c'est que chaque homme, chaque femme, sur cette terre, puisse naître du nouveau, et puisse être restauré dans sa position, ainsi récupérer ou retrouver sa position de Christ. Et je voudrais qu'on fasse partie de ça. Et qu'on fasse partie de ces hommes et ces femmes qui arrêtent juste d'être là et de faire des petites choses comme ça, semaine après semaine, mais qui vraiment sont conscients et recherchent la pensée de Dieu. Et recherchent comment, Seigneur, aujourd'hui, je peux être un canal de ta grâce, de ta puissance. Comment, Seigneur, aujourd'hui, tu veux agir dans ma vie, dans mon environnement, là où j'habite, à mon travail? Peut-être que Dieu veut faire quelque chose, mais il a juste besoin que quelqu'un d'entre nous, ou même directement que vous, soyez ici. Si nous prenons conscience de cette responsabilité, de l'autorité que Dieu nous a donnée, on reviendra dessus, je vous donnerai plus d'enseignements, je pense aussi sur l'autorité, parce que c'est un thème vraiment important. Et il y a des choses qu'on a besoin de reposer certains. Parfois on le sait, on dit merci Seigneur, on chante, je suis plus que vainqueur, on chante, le Dieu de victoire est en moi, tout ça, mais chaque jour on est dans la défaite. Nous sommes appelés à être vainqueurs. La Bible déclare que par Christ, il nous fait toujours triompher. Toujours. Romains 5, 17, nous sommes appelés à régner dans cette vie par Christ. Tout ça, ce n'est pas des théories, ce sont des réalités. Parce que quand nous sommes dans la défaite, pauvre, pénible, qu'est-ce que vous profitez? Est-ce que vous pensez que Dieu, dans son règne, est pauvre, est vivant? Non! Vous avez lu un peu l'Apocalypse, comment ça se passe, la nouvelle Jérusalem? Évidemment, on ne va pas se mettre à rechercher des choses matérielles. Si Dieu fait quelque chose d'extraordinaire, des rouges pavés d'or, des pierres précieuses, tout cela, c'est ce qui est par son image, c'est ce qu'il aime, c'est ce qui lui plaît. Et vous savez quoi? Vous êtes, je suis l'habitation de Dieu. Et notre habitation, nous avons l'habitude de la présenter selon nos goûts. Et si Dieu aime de l'or, des pierres précieuses, des choses belles, des choses qui reflètent sa nature, qu'il est, Dieu aime que son peuple aussi soit équilibré, que son peuple reflète quelque chose de bon, de positif. Je ne parle pas que du matériel, je parle de parfois notre apparence. Les chrétiens qui sont sombres, qui sont enfermés. Et réveillez-vous, les gars. Quelle image on donne de Jésus? Et parfois, ça nous oblige aussi le matin à être disciplinés. Parfois, on peut se lever de mauvaise humeur, on est tous fait de la même façon. Et on a dit, vous voyez, et rappelle-toi, je suis ambassadeur, je suis représentant du peuple. Donc l'image que je donne, ce que je fais, ça n'engage pas que moi, ça engage aussi celui que je représente. Je suis un digne représentant du Seigneur. Et même quand c'est dur, quand on n'a pas envie, on peut revenir dans les états, aujourd'hui c'est dur. Aide-moi, rends-moi ta présence pour que je puisse correctement te refléter. Pour qu'à travers moi, les gens puissent être attirés vers toi. Et il le fera parce que c'est son désir, c'est son projet de vie. Ok? Donc, continuez de prier, de méditer sur ces simples vérités. Hein, c'est pas ça que je vais faire lorsqu'on va chercher le premier dans les études. Cherchons au royaume ensemble. Et moi, je suis convaincu que le Seigneur va continuer à nous parler, comme il a commencé à le faire dimanche, comme il l'a fait un petit peu aujourd'hui, en nous remettant, et là, on est à l'introduction. On va commencer à rentrer dans des choses beaucoup plus intéressantes. Mais nous avons besoin de réellement de le vouloir, et d'avoir soif que Dieu nous parle. Vous savez quoi, si vous avez soif, Dieu va vous parler. Et une chose déterminante, j'arrête là dans l'instant, une chose déterminante, c'est que quand je peux arriver avec quelques pensées à l'esprit, quelquefois des notions à passer, quelquefois pas, aujourd'hui, mais ce qui fait la différence, c'est pas ce que je sais, est-ce que je vais pouvoir vous prêcher ou vous enseigner. Ce qui fait la différence, c'est est-ce que vous avez foi et est-ce que vous mettez votre foi en action avec moi pour que Dieu nous parle. C'est ça que je veux dire. Parce que quand vous mettez votre foi en action, que vous avez soi pour Dieu, que vous voulez qu'il vous parle et qu'il vous éclaire, et bien moi je vais aller beaucoup plus loin que même ce que je sais. Et il m'arrive souvent de devoir écouter des enregistrements en disant que j'ai raconté des trucs là, que ça ne venait pas, ça venait au-delà de ce que je sais. Et merci Seigneur qu'il peut nous donner au-delà de ce que je sais, parce que je trouve que c'est tellement peu. Et plus c'est en fait, plus je réalise que je sais combien. À côté de la grandeur de la connaissance de Dieu, et la bonne nouvelle, c'est que si tu reconnais que tu ne sais pas grand-chose, et que tu n'as qu'à faire de l'œil et que tu as soif, tu vas te faire savoir tout ce que tu as besoin de savoir, et même encore beaucoup plus. Donc continuons maintenant notre formation ensemble. Que le Seigneur nous éclaire, nous parle, qu'il puisse progresser aussi dans cette voie et dans ce message du royaume de Dieu, cette autorité de trouver, cette influence de Christ. Enfin, on va progresser, on va parler de cette autorité, on va parler de ce que c'est, vraiment le royaume, de ce que ça peut vouloir dire, on va parler aussi de l'influence, on va parler de Dieu, et on va voir comment, de manière très concrète, très réelle, si Dieu veut révéler. Et je suis sûr que plus on va méditer sur ces choses et on va rester sur ce sujet et plus on va voir aussi grandir en nous cette conscience du royaume de Dieu et plus on va voir aussi augmenter la présence de Dieu, on va voir augmenter la manifestation de la conscience de Dieu parce que là vous vous reconnaissez et vous prenez conscience de son vrai, là sa gloire vient. Au moment où Jésus avait envoyé ses disciples, il leur a dit « Allez et annoncez, le royaume de Dieu s'est approché de vous et faites des miracles. » Et vous verrez dans les évangiles, si vous faites un petit peu, que lorsque Jésus les envoie en leur donnant l'autorité, ils annonçaient le royaume et ils se faisaient des guérisons. Ils annonçaient le royaume, il y avait des délivrances. Ils annonçaient le royaume, il se passait des miracles. Ils annonçaient le royaume et une multitude venait. Pourquoi? Parce que lorsque vous parlez du royaume de Dieu, vous venez d'en parler, lorsque vous opérez dans la dimension du royaume de Dieu, vous attirez cette autorité et cette puissance de Dieu. Et plus nous allons prendre conscience et permettre à Dieu de régner, à commencer sur nous-mêmes, comme dans l'avènement, mais ensuite à régner dans nos assemblées et à régner dans tous les aspects de notre vie, et plus la gloire de Dieu va s'intensifier, s'intensifier, s'intensifier. On va recommencer à vivre des choses que nous regardons parfois avec beaucoup d'envie dans la parole de Dieu. On voit que quand ils ont monté le tabernacle au désert, ils sont devenus comme une nuée. Quand ils ont dédicacé le temps, la présence de Dieu est venue, et ils ne pouvaient même pas rester sur place tellement c'était fort. Et j'aime une parole de l'Épître aux Corinthiens qui dit que ces choses-là n'étaient même pas glorieuses à comparer avec les choses à venir. Vous vous rendez compte un peu, moi je regarde ça, c'était grand, comment j'avais déjà ça, je fais tout le ciel sur la terre. Et dans l'Épître aux Corinthiens, il est écrit que ces choses-là ne sont même pas de Dieu, à côté de la gloire à venir. Et nous sommes dans ce temps où la gloire de Dieu va se manifester. Ce n'est pas dans 10 ans, 100 ans, 200 ans, c'est maintenant. Et Dieu est prêt, et il est prêt depuis longtemps. Êtes-vous prêts? Nous sommes-nous prêts? Allons-nous lui donner l'occasion? Moi, je l'espère, et j'espère que vous les avez avec moi. Amen.
Amen.
Ok, Père, merci pour ta parole. Merci parce que tu veux nous ramener réellement dans ton plan pour nous. Ton plan pour nos vies personnelles, mais c'est ton plan pour l'Église en général. Et ton plan pour la terre, pour l'humanité. Merci pour cette faveur que tu nous fais, c'est de ne pas seulement être là à chercher comment je peux être plus riche, comment je peux être plus fort, comment je peux être plus béni. Même si ça pourrait être une bonne chose, mais tu nous fais la grâce de pouvoir être beaucoup plus responsable de ça. Et de prendre conscience que tu nous as arrachés pour voir les ténèbres. Je te remercie encore pour ça. Quelle grâce tu nous as faite un jour de venir vers nous et de nous accueillir, de nous ramener dans ta maison, de faire de nous tes enfants, tes fils et tes filles. Je te dis merci Seigneur. Et ensuite tu veux nous faire avancer dans ta connaissance. Que nous puissions devenir de plus en plus semblables à toi. Et qu'à travers nous, tu puisses te faire connaître, te révéler, te manifester. Demande à l'Esprit de continuer d'éclairer ce message dans le cœur et de nous permettre de nous y accrocher. Seigneur, toi tu cherches un homme, tu cherches une femme, tu cherches un peuple. Merci parce que partout sur la surface de la terre, tu es en train de toucher ton cœur. Et je crois que tu as l'œuvre, Saint-Esprit. Même si la tendance serait à dire que ça ne touche pas, que ça ne touche plus grand-chose, mais je crois que tu agis en profondeur. Comme Ézéchiel avait cette vision de la vallée des ossements, tout d'un coup se fut un bruit, et ensuite les ossements se sont rassemblés, l'armée s'est levée. Je remercie Père parce qu'il est en train de se faire un bruit. Et nous voulons être attentifs à ce bruit. Nous voulons répondre à ton appel et faire partie de ce peuple, de cette armée puissante de la fin des temps que tu es, de ce peuple qui est couvert de ta gloire, de ton autorité, qui est conscient de ce que tu es. Père, avant que tu déclares qu'on verra de nouveau la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas, nous voulons être du même côté. Nous ne voulons pas nous tourvoyer, nous faire en juste répétant des rituels, en pensant que nous allons prophétiser ensemble, nous allons chasser les démons de nous. Et un jour avoir la terrible surprise de nous entendre dire que nous connaissons. Merci Seigneur de parler à nos cœurs, de nous éclairer, et toi-même d'inscrire en nous cette conscience, cette mentalité de nous donner. Le nom Saint-Esprit confirme ta parole parce que c'est toi seul qui as ce pouvoir. Pour que nous soyons tellement convaincus de ton plan pour nous-mêmes et pour ton Église, et que nous puissions l'épouser. Merci Père de restaurer en nous une soif, un désir ardent. Là où peut-être parfois nous nous sommes retrouvés juste à suivre un routier, voire à faire les choses, à prier, à te louer, à t'adorer, à démarrer tout cela. Montre-nous Seigneur et convainc-nous qu'il y a des répercussions beaucoup plus grandes. Père, nous voulons entendre ton appel et faire un impact dans ce monde. passe de moi par le nom d'un homme qui se dit pour le nom de Jésus-Christ. Merci Père parce que tu dis que tu n'es pas dehors celui qui vient à toi, que tu restes trouvé par celui que tu cherches, et je décide dans une idée d'un moment de chercher. Merci Père. Merci Père, merci pour chacun de nos bien-aimés aussi, parce que tu es là aujourd'hui. Je prie de les toucher là aussi, faire du bien, de les éclairer. Et Père, je te demande au-delà même de notre communauté de parler au cœur de tes serviteurs dans cette île de la vie. De les toucher, Seigneur, de les éclairer. Je demande, Père, de venir fortifier tes enfants. D'où qu'ils soient, quoi qu'ils fassent, qu'ils soient authentiquement de nouveau, qu'ils te cherchent sincèrement. Viens les éclairer, viens leur parler. Et donne-nous le pouvoir dépasser les barrières. Là où toi-même, Jésus, tu étais sur la terre, tu allais vers les riches, vers les pauvres, vers les malades, vers les impurs. Tu allais vers les voleurs, les tricheurs, les gens progressifs. Mais ce n'était pas pareil à ce que tu étais au milieu de nous. Je te demande, Seigneur, que nous puissions être aussi, comme tu le veux, cette source de transformation dans ce monde. Que là où nous soyons, Jésus, tu puisses être vraiment. Parce que tu as choisi d'habiter en nous, de pas juste pour être quelque part dans un coin. Et Père, nous voulons que tu sois révélé à travers nous. Et ce dont je dois donner l'occasion de te faire connaître, de te faire voir là où tu seras dans nos âmes. Nous voulons, Père, t'ouvrir les portes et que tu puisses réellement nous utiliser comme des cadeaux de ton amour, de ta grâce, de ta puissance. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que les choses ne sont plus les mêmes. Tu nous amènes, Seigneur, dans cette vraie scène. Je suis tellement au procureur. Je vous Seigneur de tenir dans le lieu de le faire jusqu'au jour. Je te remercie Père pour les signes, les prodiges, les miracles. Je remercie Père pour les guérisons, les délivrances, les nouvelles naissances. Je remercie pour les paroles, les connaissances, de sagesse, de puissance qui vont jaillir de nos bouches alors que nous sommes à ta disposition. Et parfois nous serons surpris parce que tu vas faire des choses plus grandes, des choses extraordinaires. Merci toi parce que nous avons alors la joie, le plaisir de lever les yeux vers toi, de conduire toutes ces personnes vers toi. Non, c'est pas moi, c'est Jésus. C'est pas moi, c'est Jésus. Tu peux le recevoir aussi. Tu peux aussi opérer. Tu peux aussi réussir. Tu peux aussi grandir. Tu pars et voir la gloire de Dieu dans ta vie. Merci Seigneur. Merci parce qu'alors que nous cherchons ton royaume, nos besoins sont pour nous. Et même plus que pour nous. Merci pour la bonne santé. Je déclare au nom de Jésus que tout gère, toute semence de maladie d'impression est maintenant inhibée, annulée dans le nom de Jésus. Et je déclare la bonne santé divine. Je déclare que l'autorité de Jésus-Christ est à l'œuvre dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits. Merci Seigneur, merci pour la réussite du succès. Merci pour un esprit de victoire. Pour un vêtement de monde, je viens d'esprit à là-dessus. Merci du bon rappel. Nous sommes les plus braves pour réussir, pour nous épanouir en toi et à ta gloire. Tu fais de nous des témoins efficaces. Merci Père, tout ce que tu as construit. Nous nous confions en toi, nous nous adorons à toi. Nous te disons déjà merci. Nous te demandons déjà la gloire, déjà l'honneur, déjà la louange. Parce que toi seul Jésus, c'est sur toi que nous fixons le regard. Et nous te remercions pour tout ce que tu fais.
Cet enregistrement vous est offert sans frais par le programme Provision, une initiative du Centre Zoé avec Fabien Végel. Il est interdit de le vendre ou de le modifier. Pour tout renseignement, connectez-vous au www.provisiondevie.com.